Une œuvre, Léo Ferré, 24 août 1916, 14 juillet 1993. C'est la rentrée radiophonique 2016 et la poursuite d'une émission qui, depuis plus de 30 ans, irrigue France Culture de portraits de femmes, un peu, et hommes, beaucoup, qui sur tous les continents ont marqué leur époque. L'année dernière, Perrine Kervran était en charge de ce territoire. Elle pilote désormais la série documentaire où vous pourrez la retrouver du lundi au jeudi à 17h. C'est elle qui avait choisi le portrait d'aujourd'hui, celui de Léo Ferré. Il aurait eu 100 ans cette année et les hommages se sont succédés, y compris sur notre chaîne, une récente nuit de France Culture. À François-René Christiani et Jean-Pierre Leloir de Rock'n'Folk, Léo Ferré disait « Les gens qui se disent poètes, ce sont des gens qui ne le sont pas tellement au fond. Les gens qui sont honorés, qu'on les qualifie de poètes, ce sont des poètes du dimanche qui ont des plaquettes éditées à compte d'auteur. Cela dit, si on me dit que je suis poète, je veux bien, mais c'est comme si on me disait que je suis un cordonnier qui fait de belles chaussures. » Parmi ces belles chaussures, des œuvres dédiées à la solitude, Aragon, La Guenon Pépé, L'Amour Anarchie, Joli Môme ou C'est Extra. Jérôme Sandelars signe avec Assia Ralid ce « Une vie, une œuvre » Léo Ferré.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien.
Avec le temps, oui, c'est, je pense, avec la première chanson que les gens citeraient si on leur demandait. C'est justice parce que c'est une merveille absolue. C'est la chanson de l'amertume, de la vieillesse, de la vie finissante. Avec le temps. Avec le temps, on n'aime plus. Ça résume tout de la vie. Avec le temps, on n'aime plus. C'est ça. C'est quand on devient vieux, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie Schwarz, fouille dans les rayons de la mort. C'est ça. Sa vie, ça, on se la repasse. Enfin, c'est des flashbacks. Et le demain, ça veut plus dire grand chose. Donc c'est ça, c'est la chanson du temps passé, du temps qui se barre, qui reviendra pas. C'est tellement bien écrit, c'est tellement beau que même si Dalida le chante, ça passe.
Avec le temps va, tout s'en va même. Les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va.
Et il dit, cette chanson-là, je l'ai écrite un jour en 10 minutes. Alors moi, j'ajoutais, je crois que c'est ça. Et c'est une vie plus 10 minutes.
Léo Ferré, avec le temps.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis et le poisson qui se rendait sur la table à midi, qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli, frais ou pas le maquereau, faut sa face. Des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse et le frangin à rabat comme un flic à tes trousses. Et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci.
Léo était aux trois quarts italien.
Robert Belleret, journaliste et biographe de Léo Ferré.
Donc ça compte dans la prégnance de sa petite enfance, c'est tout ce folklore italien, le succo, le jus de tomate, la cuisine méditerranéenne, une ambiance familiale très chaleureuse, avec des ongles, des tentes, des personnages tout à fait pittoresques et sympathiques. Il a une petite enfance qui, à mon avis, est heureuse parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il a une sœur, il a sa mère qui est une mère très aimante. Il n'a aucun problème avec sa mère. Et un père qui, lui, par contre, est rigide, chef du personnel de la Société des Bains de Mer et qui est un bonhomme raide, assez réactionnaire, traditionnel, va à la messe le dimanche, etc. Avec qui Léo ne s'entendra pas et qui va mettre Léo dans un pensionnat. À l'âge de 9 ans, Léo se retrouve dans un pensionnat côté italien, à Bordighera, juste après Menton. Et là, ça va être l'enfer. Léo va évidemment romancer peut-être un peu ça. Il écrit un roman qui s'appelle Benoît Misère où il raconte ces années-là. Peut-être qu'il en rajoute un peu. Il n'empêche qu'il va vivre des années terribles avec de la pédophilie. Il a été à ce moment-là victime de prêtres pédophiles. Maintenant, on dit le mot, mais à l'époque, ça n'existait pas, ce mot-là. Il en a fait des poèmes, il en a fait des allusions dans des chansons. C'est quelque chose, c'est un traumatisme fort, à mon avis. C'est quelque chose d'important qui l'a marqué. Et puis, son rejet aussi du cléricalisme, de la religion, ça vient aussi de là. C'est des années de prison, ces années de pensionnat, ça va durer jusqu'au baccalauréat.
Viens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit. C'est une leçon d'ennui, l'enfance. C'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues. C'est une chanson des rues.
Léo se vivait avant tout comme un musicien et comme un compositeur. C'est sa passion première et sa passion dernière, parce qu'il a fini sa vie en dirigeant des orchestres symphoniques. C'était un rêve de gosse. Quand il avait 6 ans, il allait sur les remparts de Monaco, qui était un endroit charmant, avec des mimosas, des palmiers, des calèches. C'était un petit paradis. Et là, il allait sur les remparts et il dirigeait des orchestres imaginaires. Et il disait à ses copains, toi tu es le hautbois, toi tu es la contrebasse, toi tu es le violon. Et il dirigeait ses orchestres. Peut-être qu'il s'est réinventé un petit peu ça, mais il y a du vrai sûrement. Et puis il a eu des chocs émotionnels par rapport à la musique extraordinaires. Quand il est à Bordighera, sa mère lui rend visite une fois par semaine. Elle l'emmène dans un petit salon de thé, ils boivent un chocolat avec la mousse. Et il me raconte qu'à la radio, d'un seul coup, il y a la 5e symphonie de Beethoven. Il ne savait pas que c'était la 5e symphonie, il ne savait pas qui était Beethoven. Il entend ça, il se met à pleurer. Et il s'est senti artiste tout de suite. C'est des chocs. Là encore, il le raconte, c'est la manière de Ferré de distordre des fois un petit peu les choses, de faire des raccourcis. Mais en gros, il a eu des chocs comme ça émotionnels incroyables. Et la musique, c'est son rêve. Il va chanter dans des chorales, il va chanter Palestrina. Il est envoûté par ça. Et il va pas avoir de formation classique parce que son père, il veut qu'il fasse des études pour être notaire ou dentiste. Mais c'est pas du tout musicien, pas du tout artiste. Et lui, ça serait son rêve.
D'ailleurs, il va faire Sciences Po quand même.
Il va faire Sciences Po, ça c'était très peu connu. Moi j'étais tombé des nues en découvrant. À Sciences Po, il est un cancre fini, enfin un cancre. Il est un fumiste, il n'y va jamais, il ne va pas au cours. Mais il fait Sciences Po, il fait la fac de droit. Il est à Paris à ce moment-là dans les années 36, 37, 38. Il n'est pas du tout intéressé par le Front Populaire, il est plus intéressé par les filles, mais qui elles ne s'intéressent pas beaucoup à lui, d'où des problèmes de frustration terribles. Et puis il est intéressé déjà par la musique, on l'a dit, et par la chanson. Il y a Trenet, la révolution Trenet, et là il fonce, il plonge dedans. C'est son idole Trenet, c'est le créateur, c'est le fondateur Trenet.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
Léo, pendant la guerre, fait des piges dans un canard de Nice, le petit niçois, je crois, et il va assister à un spectacle d'Édith Piaf. Et il a le culot, lui, qui est un mec timide, réservé. Il va dans la loge d'Édith et il lui dit, voilà, j'aime la musique, c'est formidable ce que vous faites. Il écrit un petit papier sur le spectacle, vachement chouette, et dit Tyrannwick sur Édith Piaf, qui est aussi une de ses idoles. Et il a le courage de lui raconter un peu sa vie, et Piaf lui dit, il faut que tu viennes à Paris et je t'aiderai beaucoup. Voilà. Et s'il débarque à Paris en 47, avec sa première épouse, parce qu'il s'est marié pendant l'occupation.
Odette.
Avec Odette, une pin-up extra, une beauté. Mais hélas, derrière, il n'y avait pas grand-chose. Donc le couple a fait long feu. Enfin, il monte à Paris. Alors là, c'est la vraie, vraie bohème. C'est la dèche totale. Il monte pour faire ses débuts, tenter sa chance dans les cabarets. C'est le pionnier des pionniers de l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés. Et il a la chance quand même de passer au Bœuf sur le Toit, qui est un cabaret en bas des Champs-Élysées, très huppé. Et il passe au même programme que Charles Aznavour avec les frères Jacques, ce qui est pas mal quand même. Après, il va passer dans un bistrot-restaurant qui s'appelle Les Assassins, qui n'est pas du tout cabaret. Puis le patron l'a à la bonne. Il voit souvent venir manger des filets de hareng et des sardines à l'huile. Et ce monsieur, je l'ai retrouvé, il vivait encore, aimait bien Léo, lui dit, bah, écoute, ce que je peux faire pour toi, je vais louer un piano. Donc il loue un piano droit. Et le gars me raconte, le midi, j'ai mes hors d'œuvre dessus. Il y avait les carottes râpées, le céleri rémoulade, etc. Et puis le soir, on débarrassait, on tirait le piano. Et il y avait quoi, 15 personnes dans la salle. C'était un tout petit truc. Et il y avait 15 personnes. Mais dans les 15 personnes, pouvait y avoir Pierre Brasseur, pouvait y avoir Albert Camus, pouvait y avoir peut-être Sartre. Je pense qu'il est peut-être venu là. Et Ferry, il a des chansons qui ne ressemblent à personne. C'est ses premières œuvres. C'est le bateau espagnol, c'est la vie d'artiste, c'est le scaphandrier, qui n'est pas de lui, mais qui est... très belle chanson qu'il a mis en musique. Voilà, c'est des chansons qui sont d'une richesse formidable et qui vont séduire un tout petit public.
Je t'ai rencontré par hasard ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même.
Ce qu'il faut peut-être préciser, Robert Bellerin, c'est qu'à cette période-là, Léo Ferré n'est pas encore vraiment l'interprète qu'on connaîtra par la suite. Il cherche encore sa voix. D'ailleurs, sa voix va évoluer au fil des années.
Exactement. Il cherche doublement sa voix. Il a une voix un peu sépulcrale, un peu solennelle, qui n'est pas terrible. Hein. On a réédité au Chant du Monde ses premiers disques. On a retrouvé des maquettes qui ont l'intérêt archéologique. Quoi. C'est une voix qui n'est pas très séduisante. Et sa très belle voix, il va la prendre progressivement au milieu des années 50 et puis les années 60, ça va être sublime, quoi.
Alors au départ, ce sont plutôt les autres qui interprètent et qui lui permettent de se faire connaître.
Absolument.
Léo Ferré, il va y avoir Catherine Sauvage,
oui.
Gréco.
Oui, absolument. Parce que, encore une fois, sa passion première, c'est la musique. Son idée, c'est de faire de la musique et de vivre la musique. Mais il ne se veut pas un musicien du dimanche. Ça n'intéresse pas de travailler à la banque. Et puis le dimanche, de faire des gammes ou de jouer dans une fanfare. Donc, il se met à écrire des textes par obligation. Il se sent pas parolier, il se sent encore moins poète à cette époque-là, c'est dingue. Mais comme il a une originalité, une richesse d'expression hors du commun, mais il le sait peut-être pas, il va faire des choses hors du commun, déjà, sur le plan de l'écriture. Mais son truc, c'est je fais des chansons et je les donne aux autres. Il n'est pas ambitieux, lui. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir payer son paquet de Celtic et puis de bouffer à sa faim et d'avoir des copains et de manger un plat de spaghettis. Il ne se voyait pas déjà du tout, lui. Et donc, il écrit des chansons et son rêve, c'est de les donner à Edith Piaf, Yves Montand, Henri Salvador, Catherine Sauvage, Juliette Gréco. Et ceux-là vont lui en prendre, mais un petit peu du bout des lèvres.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons, y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau, que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname.
C'est ça son premier truc, les années 50, c'est ça, je fais des chansons pour les autres. Et pour cause, parce que lui, il a un public très restreint. Sur scène, il est honnêtement pas bien bon. Ses premières scènes de musical, ça va être Bobino et l'Olympia au milieu des années 50. Et il se pointe sur scène avec un pantalon fuseau de ski et des après-ski en peau de phoque.
Oui, il a un look de montagnard à l'époque.
Il a un look absolument abominable. Il a des cheveux en bataille. On dirait un vieux savant fou, quoi. Et là, il y a une femme qui va avoir une importance considérable dans son évolution, c'est Madeleine, qu'il rencontre en 51, histoire d'amour incandescente, coup de foudre, très très belle histoire, très très belle rencontre.
Il était une fois à Paris un bistrot ouvert toute la nuit, le Barbac, fabuleuse trouvaille, située évidemment rue du Bac. Ce 6 janvier 1950, je franchis pour la première fois le seuil de ce haut lieu de la vie nocturne, avec Suzanne, chanteuse réaliste au cachet un peu vague. au fond de la salle, les sièges étaient en cuir, tannés par des milliers de culs désespérés d'attendre la gloire. Au bar, Antoine Blondin racontait son certificat d'études ou sa première communion. « J'avais 26 ans, une fille, un divorce sans importance, une passion qui s'essoufflait pour un beau jeune homme trotskiste qui me faisait vendre la vérité sans y croire. Il est rentré, incolore dans son imperméable beige, les yeux aigus et tendres, cerclés de lunettes de fer, l'écart des dents de la chance éblouissant un sourire d'enfant, un air d'ailleurs. Il embrasse Suzanne et, présenté par elle, me tend la main. Je lui offris une palmale. Il s'assit calmement face à moi. Nos destins étaient joués, gagnés, perdus. Il m'avait dit « à demain », comme on dit, de toute éternité. Et l'éternité, c'était lui.
Donc ça a commencé comme ça, quoi. Puis ils ont vécu dans un hôtel meublé qui était près du Luxembourg, dans une rue où Rimbaud et Verlaine ont partagé une chambre, sans doute. Et donc ils étaient dans un truc où ils faisaient de la bouffe en se cachant avec un petit réchaud. C'était vraiment la belle bohème. Madeleine, elle est là et elle va inciter Léo à bien choisir ses textes. Elle va l'écouter, elle va le conseiller. Et elle lui dit surtout, il faut changer sa tenue en scène, sa tenue vestimentaire, mais aussi pas rester planté derrière son piano avec des lunettes un peu disgracieuses. Donc elle lui apprend, elle l'oblige à se lever, à s'habiller autrement, à travailler sa voix, à doser son tour de chant, à le construire. Et ça va donner, 1961, j'ai la chance miraculeuse d'être dans la salle, l'Alhambra Maurice Chevalier, récital, en deux parties, seul en scène, Léo Ferré qui arrive, Caraco de velours noir, Col Danton, Aragon et Elsa Triolet sont dans la salle de rang devant moi, qui suis un gamin de 14-15 ans. Et là, c'est prodigieux. Et là, c'est l'envol.
Affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon? Puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Aragon, il était très musical. Il aimait être mis en musique.
Annie Butor, belle-fille de Léo Ferré.
Dans des grands textes d'Aragon, Léo faisait deux chansons. Donc maman, elle trouvait les titres, elle trouvait les refrains, elle changeait l'ordre des strophes, et elle tripatouillait. Et Aragon, il était à la fois content qu'on le mette en musique, mais il aurait peut-être préféré faire lui-même ses propres coupures ou tout ça. Alors maman allait vers Elsa, puis elle lui disait, Elsa, sa compagne Elsa Triolet, et elle lui disait, est-ce que je peux, est-ce que je demande à Louis si c'est comme ça, juste avant que Léo enregistre. Et Elsa disait, vas-y, tout permettre, vas-y Madeleine. Enfin, j'ai des souvenirs à foison là-dessus. Et puis ça a fait le disque que tout le monde connaît.
Alors à côté de vous, vous avez justement le disque Les Chansons d'Aragon chantées par Léo Ferré. Et quand on l'ouvre, c'est le disque d'époque.
Hein. Oui.
On voit votre mère en photo, Madeleine Ferré.
Oui.
Juste au-dessus, Léo.
Oui.
Elsa Triolet et Aragon.
Et Aragon, avec leurs textes où tous les deux se font des compliments mutuels. Aragon félicitant Léo et réciproquement.
Moi, que derrière la porte des paroles d'Aragon, il y avait une musique
que j'ai trouvée
immédiatement.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin.
Aragon est un poète. Il a écrit des livres de poésie desquels nous avons extrait, comme un accord, des textes pour en faire des chansons. J'en fais immédiatement un disque de variété. La poésie est faite pour être clamée, pour être dite, pour être chantée. Avec la poésie, je vais faire des chansons qu'on mettra dans les jukebox, des chansons qu'on chantera partout, vous comprenez ? Voilà.
Te faire attachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Une bise, vite fait, à l'idole. Un œil sans complaisance sur le fond de teint, sur le pantalon, le col romantiquement relevé. Tu as fait pipi ? Oui, il avait fait pipi. Longtemps, lors des récitals, il fut habillé en première partie de velours gris, de velours noir en seconde. Un jour, à l'entracte, il n'a changé que le pantalon. J'ai constaté le désastre une fois là-haut. J'ai alors fait mettre des demi-caches pour que ça se voie moins, mais je râlais. « Mouche-toi, tousse bien, avant, tiens, ta lichette de whisky, rebise, merde, ventre à terre. » Je rejoignais, conducteur en main, mon ciel électricien et ses acolytes. J'attendais quelques secondes, le silence fervent. Délicieusement putain et magnifié, après que le grand rideau rouge eut glissé, m'apparaissait mon pantin chantant. Une chose qui me foutait en rogne lorsque je descendais de mes hauteurs pour regagner sa loge, c'était la foule d'admirateurs qui m'en obstruait l'entrée, l'affolait de compliments démentiels. Ça marchait ferme, la bosse à reluire. « Oh Léo, cette nouvelle chanson, quelle merveille, quelle interprétation! Elle est éditée ?»« Tu parles, il l'avait fait la veille. » La porte refermée sur nous deux, je dois avouer que je l'engueulais ferme. Il s'était trompé 4 fois, il avait eu tant d'hésitation que s'il ne la tenait pas à fond demain, je jetterais mon tablier et tutti quanti. Comment voulez-vous que cet homme n'ait pas fini par me détester ?
Tu ne vas jamais aux collections, tu préfères mettre tes sous à plat pour t'acheter une belle maison drapée par les Dior du gothique. Mais comme on va pas cul tout nu, et puis que d'abord moi je voudrais pas, tu te sapes chez le couturier de ton cru, qu'a des harnais démocratiques. Ça te va, cette robe de 10 sacs, tes cheveux en vrac, ce rien qui t'habille. Ça te va, tes souliers pointus, même s'ils sont fichus, ça flatte tes gambilles. Ça te va, ce sac en lézard qui fait le lézard sous ses airs plastiques. Ça te va, cet air sans façon dont t'as pris mon nom pour vivre de musique.
J'avais un jour compté. Léo, il a écrit, créé plus de 250 chansons du temps de maman. Et en 68, quand ils se sont quittés, c'était Léo Ferré. Il était connu et toutes les chansons, par exemple... Ça te va, ce qui est moi ma chanson préférée. Ça te va, cet air sans façon dont t'as pris mon nom pour vivre de musique. Enfin, c'est un hymne à maman.
Cette gueule te diront, malgré ce que diront les contre-photographes. Ça te va, ce dos qui descend sous l'œil indécent des gars qui te gaffent. Ça te va.
Alors, c'est une grande année de bonheur, ça va durer 18 ans, on va dire, oui. Avec sa seconde femme Madeleine. À un moment donné, il quitte Paris. Ils vont donc acquérir cette île, hein, l'île du Guesclin.
Une île en Bretagne que Léo et Madeleine ont achetée, qui est entre Cancale et Saint-Malo. C'est un lieu magique et Ferré s'était endetté à mort pour s'acheter ça, un truc de fou. Il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité, ni rien. Cette île du Guesclin va être à la fois le prétexte et la raison d'être peut-être d'une chanson sublime. Beaucoup d'amateurs de Ferré considèrent que c'est sa plus belle, qui s'appelle « La mémoire et la mer ». qu'il écrit à la fin des années 60, mais en fait qui a été une longue maturation, parce qu'au départ c'est un poème lyrique qui s'appelle « Les chants de la fureur ». Et il en extrait certaines strophes, il en fait « La mémoire à la mer », où il est question, dans un souffle lyrique absolument vertigineux, quoi. C'est une chanson qui donne la chair de poule, si on aime Ferré, c'est vraiment le top du top. Il va être question de la vie quotidienne, des parties de pêche qu'ils font avec les copains qui passent, avec Paul Guimard, Benoît de Groult qui est une grande amie du couple Ferré, et Catherine Sauvage. On fait des parties de pêche à l'aube, après on boit le champagne, on boit du cidre, on fait griller le poisson. Enfin, c'est une belle amitié de gens qui sont tous au snob, qui aiment la poésie, enfin bon. Et la mémoire à la mer, il est question des parties de pêche, il est question d'un loup de mer, il est question... J'ai décrypté strophe par strophe grâce à Maurice Fraud, qui était le grand ami, enfin le secrétaire... Compagnon de route de Léo. Ferré, ouais. Et Maurice Fraud connaissait l'histoire intime de ces chansons-là. Hein, qui m'a, dans d'immenses lettres de 15-20 pages, Maurice m'expliquait... voilà, il est question... Bah, là, on avait un jour, on avait pêcher un poisson. Et Léo, il me dit, c'est quoi ça? C'était une roussette. Maurice Fraud dit, ça, Léo, c'est un chien de mer. Et Léo dit, quoi? Un chien? Rejette ça tout de suite. Voilà. Et ça se retrouve beaucoup mieux que ce que je le dis là, dans la chanson. Le fantôme Jersey, c'est... On a l'impression que au fond de l'horizon, on aperçoit les îles anglo-normandes. Tout a un sens et donne l'impression de quelque chose de désincarné, d'une œuvre purement lyrique, mais un peu d'écriture automatique, pas du tout. C'est ce qui fait la beauté, à mon avis. Parfaite, c'est ça la grande poésie, quoi. C'est de prendre du quotidien, prendre du vécu et en faire une œuvre d'art.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre.
Bertrand Dical, journaliste.
Ce qui est fascinant avec l'écriture de Léo Ferré, c'est à quel point elle n'est pas naturelle. Son écriture n'est pas instinctive, c'est une écriture extrêmement préméditée, extrêmement calculée, extrêmement pesée, et extrêmement pesée dans ces deux extrêmes et dans le rapport entre deux extrêmes. Léo Ferré, il est nourri des poètes. Grosso modo, c'est la langue de Rimbaud avec la technique de Mallarmé. Grosso modo, c'est ça, du point de vue de la poésie. Et d'autre part, il est fasciné par le même mouvement qui va faire un Michel Audiard pour le cinéma, qui va faire un Georges Brassens aussi dans la chanson. C'est-à-dire utiliser la langue populaire, anoblir la langue populaire, à la manière François Villon, évidemment, mais avec quelque chose de moderne. C'est pour ça que Léo Ferré va toujours aimer non seulement l'argot des rues, c'est cette espèce d'argot de concours enraciné dans la chanson réaliste du début du siècle jusqu'aux années 30, mais aussi l'argot contemporain. C'est pour ça qu'il va, avant même Gainsbourg, hein, beaucoup employer d'anglicisme. T'es rock, coco. C'est pour ça qu'il va faire des chansons dans lesquelles il va même devancer l'écriture pop et le vocabulaire d'une génération dont il veut parler et qui va séduire évidemment, mais dans les années 70, quand il écrit les pop, c'est la musique au printemps des guitares, c'est l'électricité qui gratte et qui se marre, c'est vraiment à la fois une langue d'adulte, c'est une langue de quinquagénaire, presque de sexagénaire, et en même temps il veut coller à la langue de la rue, à la langue des gamins, à la langue des lycées, et toute sa vie sera comme ça. C'est-à-dire que il va toujours travailler un rapport entre l'argot et la langue savante, entre la langue de la rue et la phrase savante, l'écriture savante. Une chanson comme Joli Môme, T'es toute nue sous ton pull, il y a la rue qui est ma boule. C'est à la fois l'argot et la vraie métrique classique de la poésie 19e siècle.
T'es toute nue sous ton pull, il y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
Et puis ils vont partir aussi dans le Lot à Perdrigal.
C'est un rêve fou, c'est s'acheter un château de conte de fées, mais enfin délabré. Là encore, un lieu absolument magnifique. Un château du XIIIe siècle, paumé au-dessus, sommet d'une colline, entouré de chênes. Ils s'installent là-bas. Alors ça, c'est début des années 60, je crois que c'est 63, 64. Là encore, sans confort, une vie complètement folle, d'autant plus folle qu'ils se mettent à adopter des animaux en pagaille. Pour les sauver de la boucherie, hein, c'est l'idée de Madeleine. Donc elle achète sur le marché des brebis pour les sauver, des vaches pour les sauver, un cochon, une cochonne exactement, Baba.
Des chiens, des chats.
En pagaille, mais par dizaines les chats. Mais surtout, des chimpanzés. Le premier chimpanzé, Pépé. Pépé adopté quand Léo passe à l'Alhambra au début 61, en première partie, un numéro, ce qu'on appelait de singe chavant. Et le dresseur dit à Léo, on a une petite chimpanzée là, mais elle est malade. Il la montre à Léo, et Léo va dans la roulotte. Et il voit la petite chimpanzée qui dormait comme ça, avec ses petits poings fermés, comme un bébé. Donc Léo, très émotif. Et Madeleine encore plus. Ils adoptent cette bébé chimpanzé. Mais le bébé, il va grandir. Et Pépé va devenir un chimpanzé adulte, fabuleusement apprivoisé. À table, elle tendait des fruits, le fromage, elle écrasait les camemberts, elle buvait des coups, c'était incroyable. Et donc c'était un animal d'une drôlerie, d'une intelligence, il faut bien... Moi je mets à peine de guillemets, parce que c'est tellement troublant. Un jour, elle tend un fruit à Paul Castagnier, qui était le pianiste de Léo, qui était aveugle. Castagnier, évidemment, ne réagit pas. Et à ce moment-là, Pépé, avec sa patte, est venu balayer comme ça, devant les yeux de Castagnier. Elle voulait comprendre pourquoi. C'est quand même bouleversant, quoi.
Parlez-moi de Madeleine, d'Annie, de Pépé, des chiens, de la campagne.
Ne me faites pas parler de Madeleine, parce que je serai tout de suite ému. On arrête, parce que je peux pas.
Non. Léo, parlez-moi de Madeleine, du bonheur, de tout ce qui est votre vie là-bas.
À ma vie, c'est une chose calfeutrée, vous savez. J'ai Madeleine qui est l'autre bout de moi-même. On est fait en deux à la maison. Il y a Madeleine et puis moi. Il y a Annie qui vit pas avec nous parce qu'elle est, elle étudie, elle est à la Sorbonne. C'est une fille intelligente et très drôle. Et puis, il y a Pépé. Alors ça, chaque fois que j'en parle, ça m'est à la fois pénible parce que je sais que les gens ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un chimpanzé. Et on fait une expérience extraordinaire parce que elle vit chez nous comme un enfant. Elle est totalement libre. Et alors, elle a une psychologie d'enfant libre. Il faudrait parler longtemps sur Pépé. On l'adore.
Annie Butor, alors moi, ce qui m'a, je vous le dis très franchement,
allez-y,
ce qui m'a un petit peu choqué dans ce passage, c'est que c'est vrai, il parle de vous, mais finalement brièvement.
Oui.
Et puis, alors, il fait un long développement sur Pépé, la chimpanzée, donc, qui auprès de Madeleine et de Léo, et où on a l'impression que ça devient une fille de substitution.
Ah, mais ça, vous avez pu être choquée parce que j'étais la première choquée et la première à en souffrir. C'était vraiment une fille de substitution. Moi, j'ai des tas de souvenirs atroces. D'ailleurs, si on n'avait pas eu cette chimpanzée, la vie aurait été très, très différente. Et il le dit lui-même. Et comme maman aussi, ils l'ont reconnu après qu'ils avaient fait une connerie. Ils s'attendaient à beaucoup trop. Ils s'attendaient à l'avoir parlé. Et lui disait « ma fille ». Et comme tous les gens qui refusaient d'admettre ça ou qui étaient choqués, étaient écartés. Donc, ils se sont éloignés absolument de tout le monde, aussi bien de leurs amis... justement de Benoît de Groult, de Paul Guimard, qui ont subi des choses assez spéciales quand ils venaient nous voir.
Paul Guimard me racontait qu'il était sur une chaise longue, d'un seul coup, Pépé est venu, et elle m'a roulé un patin, elle l'a embrassé avec ses lèvres qui allaient de son front à son menton. Quoi. Il a eu la peur de sa vie, Paul Guimard.
Les gens fuyaient. La jeune fille qui nous aidait, qui s'appelait Denise, qui vit encore, elle a été foutue à la porte parce qu'elle en avait marre de se faire mordre. Moi, je me suis sauvée. Enfin, donc, ils étaient engagés dans une espèce de folie à deux qui s'est très, très mal terminée. Maman disait, toujours pour la citer de mémoire, « Je suis chimpanzéifiée à bloc, quoi. J'en peux plus, on ne va pas sortir. » Et Léo disait « Je suis dans un Boeing dont on ne peut pas descendre. » On ne pouvait plus. Cette vie dans le Lot était... Dire que c'était étouffant, c'était terrible. C'était terrible.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui... Ben, oui. Pépé.
Une vie de cinglé.
Pépé.
Lui et elle le raconteront très bien. Lui dans un texte qui s'appelle « Je donnerai 10 jours de ma vie ». Et elle dans les mémoires d'un magnétophone qui deviendra un livre qui est stricto sensu des mémoires au magnétophone. C'est-à-dire que tous les jours... Comme elle va pas bien, qu'elle déprime, Madeleine, Léo lui dit « Écoute, raconte ta vie comme ça au magnétophone, on en fera un livre. » Et ça donne effectivement un livre que Léo imprime lui-même, qui est un texte haletant, bouleversant, poignant, qui pourrait être, à mon avis, donnerait lieu à un spectacle sur scène magnifique, parce qu'elle a du talent. Et puis en plus, Léo passe derrière, alors peut-être qu'il arrange un petit peu. Toujours est-il que c'est... Du brut de décoffrage, la vie d'un couple qui se déchire, qui est dans la merde, qui picole trop. Donc il y a des crises, il y a des engueulades, il y a des déchirements. Ça donne lieu aussi à des chansons sublimes. Je te dis salope, tu me dis ta gueule, les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà, c'est dans les textes des chansons qu'ils chantent sur scène. Sa vie, elle est là. Donc il n'y a pas d'équivalent dans l'univers poétique. Mais dans la chanson, encore moins. Y a pas, personne n'a osé faire ça, raconter sa vie avec talent, avec que ça passe. Et donc le couple se déchire. Les tensions sont de plus en plus vives. Et puis, Léo a une liaison extérieure. Ça n'arrange sûrement pas les choses. Et Pépé, là-dessus, se blesse. Mais sauf que la gangrène s'y met. Mais là, Léo, il part, il claque la porte, puis il hésite après. Et il rappelle Madeleine. Et puis Madeleine lui dit « Oh, si tu viens, je sors le fusil, ramène pas ta grande gueule. » Enfin voilà, ça se passe un peu comme ça. Et du coup, il revient pas. Et Madeleine, elle plonge, on imagine la déprime, la dépression profonde, sans doute. Et du coup, avec tous les animaux sur les bras, Baba, Pépé,
Zaza... Parce que des chimpanzés, il y en a moins 4 ou 5.
Ils sont 5, les chimpanzés. Il y a 3 petits, et puis Bambino. Alors, est-ce que c'est Médée hein, qui tue ses enfants? C'est un peu ça. Elle va venir un chasseur qui va flinguer les animaux. Mais qui avait-il d'autre de possible? Les donner à un cirque, à un zoo? Elle voulait pas. Donc voilà, les animaux seront tués, presque tous. Ferré en fera une chanson sublime, Pépé. Madeleine sera mise dans une maison de santé pour faire une cure, quoi. Et retrouver un peu d'équilibre.
J'ai des textes, si vous voulez, que je peux vous lire de maman. Alors, son manuscrit qui n'est pas publié, que je publierai peut-être un jour, c'est après la rupture avec Léo. Et là, elle parle beaucoup plus de Léo que de Pépé. Elle en parle aussi, bien sûr, puisque ça reste quand même quelque chose de terrible pour elle et une blessure à vie. Mais elle parle beaucoup de Léo et c'est encore plus intéressant.
C'est un air qui vaut pas dire on, c'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups, pour s'envoyer tous nos motifs, on ne traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais y a une chose qu'ils savent, mamie, c'est qu'on n'est pas de l'académie.
J'aborde en vous parlant de Léo Ferré, direz-vous, peut-être le langage du valet de chambre congédié par son maître. Loin de moi cette intention. Personne avant tout le monde ne l'a autant adoré, secouru et servi que moi. Lui-même en a témoigné à mille reprises. Et si la vie nous a brisés et rompus, ce n'est la faute ni de l'un ni de l'autre, et les quelques griefs que je maintiens contre lui n'altèrent en rien l'immense amour que nous nous sommes donnés. Non, tu n'étais pas mon chien, comme tu l'as aboyé après nous. Peut-être mon prisonnier adoré qu'il fallait délivrer.
Donc la séparation, elle est terrible. Et de là naîtra chez Léo une haine inextinguible. Pour lui, Madeleine, c'est la meurtrière de Pépé. Donc c'était quelqu'un d'entier. Hein. Et trois épouses successives, trois vies complètement différentes à chaque fois, puisque la dernière épouse de Léo, c'est Marie-Christine, c'est beaucoup plus jeune que lui.
Qui travaillait d'ailleurs dans cette maison à Perdregan.
Exactement, et qu'il a connu là-bas.
Qui était employé de maison.
Voilà. Et qui était presque une adolescente, quoi, qui avait 17 ans quand il l'a connu. Et là, il va construire une autre vie, tout à fait impensable à l'époque. Ils vont s'installer en Toscane. Il va faire des enfants. Et je pense qu'il en était très heureux. Même si c'était pas la priorité de ses priorités. C'était un artiste. Il était toujours dans sa musique, dans ses mots.
Il y a un des aspects quand même de la personnalité de Ferré qu'on n'a pas vraiment abordé jusqu'à présent, c'est la misogynie.
Oui, le mot est trop fort. Il a une éducation, il est né en 1916, hein, c'est pas, il a eu une éducation assez traditionnelle et rigide, etc. Avant-guerre, il lisait plus volontiers peut-être l'Action française que l'Humanité. Il n'est pas devenu un art comme ça. Non, je dirais pas misogyne. Il a un rapport qui n'est pas simple avec les femmes. Un côté un petit peu fétichiste. Cet extra, c'est une chanson d'un érotisme évident et très fort. Et ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, c'est un peu les jartelles, les trucs, tout ça, ça le... Pour autant, comme il est pour l'émancipation, c'est un libertaire viscéral. Je sais pas si c'est un vrai anarchiste, mais c'est un vrai libertaire. Il ne peut être que du côté de la libération des femmes. Bon, mais je sais pas, j'avais rencontré Juliette Gréco, elle ne dit pas de... Jamais elle penserait dire qu'il était misogyne. Catherine Sauvage, elle passait des heures à discuter de Léo, elle le mettait au-dessus de tout. Et jamais elle m'a dit un truc négatif. Alors qu'il y a forcément du négatif. Et c'est vrai qu'il fait une déclaration à un moment en disant s'il n'y a pas de grands artistes, c'est que les femmes, la femme, son truc, ça, avant tout, c'est de faire des enfants. Et il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, donc elle n'a pas besoin. Et c'est vrai qu'il dit ça.
Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra,
un type qui avait aussi ses petites faiblesses, ses petits défauts, et ses accès de mauvaise foi, qu'il le faisait rire lui-même si on le mettait en face de ses contradictions. Ne te marie pas, il se marie trois fois. Ne vote pas. Bon, ça, il n'a pas voté. Il faut mettre un pavé dans l'urne. Mais quand vous discutiez avec lui, comme ça m'est arrivé à propos des élections législatives, je crois que c'est en 78, il disait, mais quand même, bien sûr, c'est peut-être pas le pied, c'est peut-être pas fantastique, les socialistes, mais ce sera peut-être toujours un peu mieux que la droite. Si les ouvriers peuvent avoir un petit peu d'amélioration, ça sera toujours ça. Et là, il disait, eh ouais, là, t'as raison, il a gagné ma femme, il est bien ton mec, hein, il est bien ton mec. Il se rendait à ce discours qui volait pas très haut. Donc, je disais, mauvaise foi, il en avait plus qu'à son tour. C'est un mec imparfait, sûrement. Mais c'est un artiste sublime, par contre.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de 3 sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes. C'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul. C'est ton cul.
Mais c'est compliqué de définir des strates temporelles parce que.
Style, c'est ton cœur.
Il a écrit des choses dans les années 50 qu'il a utilisées dans les années 70. Au milieu des années 50, il y a un recueil de poèmes qui paraît, qui s'appelle Poète vos papiers, dont il fera le titre sera conservé pour une chanson. Il y a un texte qui s'appelle Préface qui paraît post-68 art, qui est la poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. C'est d'une violence, c'est formidable, c'est une déclamation. Mais c'est, il l'écrit au milieu des années 50, Préface.
Et puis ça, il l'écrit aussi, il faut dire, en réaction...
À sa fâcherie avec André Breton.
Avec Breton.
Absolument.
Qui refuse de lui écrire une préface.
Voilà. Exactement, pour ce livre précisément. Il a toujours été en avance sur tout le monde et il le reste encore aujourd'hui.
En avance à tel point que finalement il va préfigurer aussi mai 68, il va s'attirer aussi les faveurs du jeune public qui reconnaît en lui un porte-parole.
C'est-à-dire que les années 60 c'était Bobineau, sa salle de prédilection, où c'était quand même en gros les intellectuels de gauche, public... Germano-Pratin, des intellectuels, des enseignants, etc. Et c'était un public sage, qui pouvait être fasciné dès la première écoute par les poètes de 7 ans, mais c'était sage. Et puis parallèlement, Ferré donnait chaque année, et j'en manquais pas un, des galas pour Le Monde Libertaire, le journal de la Fédération Anarchiste. Il n'était pas en carte, c'était pas du tout un militant, mais c'était ses amis de cœur. Tous les ans, il donnait un truc à la Mutualité. Et là, c'était une autre ambiance. Mutualité, c'était... Les jeunes qui n'étaient pas encore 68 ans, qui allaient le devenir, chevelus, blousons, drapeau rouge, drapeau noir, gueulement pendant tout le spectacle, ce qui, moi, me navrait considérablement. Mais alors, c'était une ambiance insurrectionnelle. Et ça a été montant, montant, montant. Et puis, le 10 mai 68, nuit des barricades, Ferré est programmé à la Mutualité. Bon, j'y suis. Avant le spectacle, Léo boit un coup avec Maurice Fraud, son secrétaire, ami... garde du corps, chauffeur, confident, tout ce qu'on veut. Alors, Fraud est là avec Ferré et avec Castagnier dans un bistrot, un bar tabac. Et puis, il y a les manifestants qui commencent à affluer avec des banderoles et tout. Il y en a un qui le reconnaît. Léo, ouais, c'est Ferré, c'est Ferré. Et les mecs disent, allez, Léo, avec nous, Léo, avec nous. Et lui, il dit, non, écoutez, je suis désolé, mais moi, je peux pas, je vais chanter. Puis, il avait pas très envie, à mon avis, de sa vie, il a jamais été dans un cortège avec des manifestants, comme... beaucoup d'artistes d'ailleurs et ne le feraient pas. Donc il l'a pas fait. Il a donné son spectacle qui avait une dimension et une gueule particulière, je peux vous dire. Là, on était carrément dans la résurrection. Il y avait une banderole, le pouvoir est maudit. Et il a créé sur scène ce soir-là les anarchistes, qui était un texte qu'il avait écrit pas mal de temps avant. Il l'a chanté là pour la première fois.
Il y en a pas un sur 100. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils
Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mutant. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais. Que lorsqu'on a peur de les anarchistes.
La communion, bon là ça se cristallisait comme ça en direct ce soir-là. Mais en fait, c'est un cheminement. Il avait une avance incroyable temporellement pour sentir la société. Dans les années 50, il écrit La vie moderne, il écrit Les temps difficiles, où il parle des bébés éprouvettes, où il parle des robots dans les usines, où il dénonce la réclame, vise la réclame. Il écrit une chanson. La publicité, il avait compris ce que ça pouvait être, que ça pouvait être le cancer, quelque chose qui vous ronge la tête, qui vous bouffe les neurones. Il avait une avance incroyable, anti-militarisme, il dénonce la torture, il évoque la torture en Algérie. Dans les chansons, c'est le seul. Il évoque le silence du pape pendant la guerre à propos du génocide des Juifs. Il est le seul aussi dans Monsieur Toublan. Et donc, évidemment, à un moment, la rencontre, elle se fait. Alors on dira, oui, il a récupéré 68. Moi, j'ai tendance à penser que c'est le contraire, même si, c'est vrai, il va faire quelques chansons de circonstances qu'il aurait pu peut-être éviter, comme une fille, la rue se déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Bon, ça, il aurait pu s'en dispenser, à mon avis. Mais il écrit aussi « Ils ont voté », il écrit aussi « L'été 68 ». Il fait des chansons en situation, des chansons situationnistes. Il fait une chanson pour défendre la cause du peuple, le journal de Sartre. Ça ira pas plus loin, son compagnonnage avec Jean-Paul Sartre. Mais il fallait le faire, quand même. Il écrit une chanson au moment où la cause du peuple est interdite. Donc, il y a une fusion qui va créer des malentendus. Parce que les ultra-gauchistes, ils vont se retourner contre Ferré à ce moment-là en disant « mais les spectacles, ils doivent être gratuits. Donc on veut rentrer gratuitement. » Et du coup, pendant des mois qui vont finir par être des années, il y aura des incidents au spectacle de Ferré par des gens, moi j'en ai vécu plusieurs, qui veulent rentrer sans payer. Pendant tout un spectacle, je crois que c'était à Toulouse, des mecs au premier rang qui lui crachent sur le bas de son pantalon, quoi. Et ça va des fois vraiment dégénérer, quoi, avec des boulons en fer quand on lui balançait sur scène, quoi. Après, ça s'est calmé. On est revenu à un public beaucoup plus consensuel, même si c'était toujours un public. Je veux dire, c'est pas forcément le grand public, Ferré, hélas.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. La solitude.
Léo, lui, voulait absolument rebondir. Michel Hervé, ex-bassiste des Zoo.
Bon, il était très connu, hein. il faut dire ce qu'il est. C'était quand même une star, mais star quand même qui restait rive gauche, je trouve. Et avec Zoo, ben, il a participé à un autre monde. Zoo, c'était actuel, ça vendait énormément de disques. C'était le groupe numéro un français. Il y avait Magma, c'était la pleine époque de la pop musique. Et Léo, lui, avec nous, a eu un autre marché. Et cette rencontre, qu'elle fut belle. Ah ouais. Tourner, c'était magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, cette rencontre.
Comment ça se passait en studio, Michel Hervé ?
Ah, très bien. C'est un gars qui n'a jamais été à l'encontre d'une orchestration, par exemple. On enregistrait la rythmique, piano, basse, batterie, guitare. Il proposait au départ une chanson ou deux ou trois à l'orchestrateur. Là, c'était André.
Votre frère ?
Oui. Lui donnait la couleur de la rythmique. Mais il orchestrait tout, avec les cordes, avec les cuivres et avec les choristes, les chœurs. Voilà. On enregistrait la première mouture. Léo passait avec l'orchestrateur dans la cabine, écoutait ça,
le climat. C'était ça qu'il voulait. Et de là, donc, Léo disait, bah oui, ou peut-être qu'on peut donner une autre couleur. C'était rarissime, parce qu'il faisait entière confiance à l'orchestrateur. À noter que dans La Solitude, c'est Léo qui a fait l'orchestration des cordes. Il écrivait bien les cordes. Ouais, ouais. C'était pas un forcené de la double croche. Non, Léo, lui, c'était très doux comme ça. C'était des vagues. C'était. J'aimais bien cette écriture sobre. Et ce que venait chercher Léo, c'était surtout la couleur de Zou, la transformation de ses titres. Aller autre part. Non, en studio, c'était vraiment très agréable.
Et sur scène?
Alors, sur scène, il n'y a jamais eu un reproche. La seule chose qui s'est autorisée à dire, c'est que la pop, musique, ça fait du bruit, nom de Dieu. Il n'a même pas dit le nom de Dieu, je crois bien. Oui. Avec un bulldozer comme Zou, c'était une machine de guerre, Zou. On savait où il fallait vraiment jouer pianissimo et quand il fallait envoyer la purée. Mais oui, c'est ça. Il fallait archi-respecter la personne qui était devant. Il faut respecter l'artiste qui est devant. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une communion.
Les pop, c'est la musique au printemps des guitares. C'est l'électricité qui gratte et qui se marre. Les pop, c'est la vertu des amplis dans la plaine.
Quand c'était un tendre, même si c'était un écorché vif, hein, parce que quand il débitait ses textes sur scène, ça faisait pas de cadeau. Hein. Mais sorti de là, c'est un agneau.
Et d'ailleurs, vous allez co-signer un album avec Zou et Léo Ferré, un album qui s'intitule Amour Anarchie.
Oui, c'est, la
c'est quand même les deux grands A qui cohabitent. Hein.
Tout à fait. Mais Amour Anarchie, il y a de l'amour, la sensibilité. Et l'anarchie, c'est un peu la violence, mais la violence vocale, c'était pas un violon dans la vie.
Tu seras pop, mon fils, et dans ce monde fou, tu le partageras en mémoire de nous. Les pop.
Il a chanté, il s'est produit jusqu'au bout, il a créé jusqu'au bout, avec. Une évolution dans l'écriture qu'on peut aimer ou pas, une évolution dans la musique. Il a changé quand même sa manière de créer. À partir du moment où il a vécu en Toscane, il a pu se consacrer davantage à la musique. C'est-à-dire que là, il produisait lui-même ses disques, il dirigeait lui-même les orchestres, l'Orchestre Symphonique de Milan. Donc c'était ça son truc. Et les textes étaient presque là pour habiller la musique. Et sur scène, d'ailleurs, il reprenait pratiquement que des chansons de, j'allais dire, l'âge d'or, enfin des années Barclay. Il y avait toujours La mémoire et la mer, Ni Johnny Mad, dont on n'a pas parlé, qui est une chanson, qui est une des plus belles chansons de Léo Ferré. Ni Johnny Mad, c'est une chanson contre la peine de mort. Là encore, en avance sur son temps, La cigarette sans cravate. Enfin bon, c'est la séquence des dernières minutes d'un condamné à mort. Mais le titre peut prêter à confusion. Ni Johnny Mad, c'est le slogan des anarchistes. Et donc, jusqu'au bout, il a chanté. Ça a été la vie d'artiste, le saltimbanque magnifique, jusqu'au bout. Même quand la santé commençait à fléchir un petit peu, même quand il y avait des trous de mémoire. Les gens l'aimaient tellement que s'il avait un trou de mémoire au milieu des poètes de 7 ans, la salle lui soufflait. Et il est allé jusqu'au bout. Moi, je l'ai vu sur scène en 92. Donc, il était déjà. C'était très. Très bouleversant, parce qu'on sentait que c'était un peu la fin du voyage, quoi.
Parce qu'il est mort à 76 ans.
Voilà, un 14 juillet.
93.
C'est quand même quelque chose, ça.
La cigarette sans cravate. Confus à l'aube démocrate. Et le remords des coups de jatte. Avec la peur.
C'était Léo Ferré avec Le Temps, un documentaire de Jérôme Sandlars réalisé par Assia Ralid, à la prise de son Chantal Nouvelot, mixage Philippe Bredin, avec Robert Belleret, Annie Butor, Bertrand Dical et Michel Hervé.
Ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême. Comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale.
C'était Une vie, une œuvre, proposé par Irène Omelianenko avec Claire Poinsignon. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture. Vos commentaires sont bienvenus sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre, consacrée à la créatrice de mode italienne, Elsa Schiaparelli.